Moi, plus qu'une question, je voulais juste faire une remarque. Bon, une remarque d'abord pour dire que là, on a entendu vous exposer sur deux prix de l'Académie. Bon, les prix sont attribués d'une manière totalement indépendante et décorrélée, mais en même temps, moi, je trouve assez intéressant ce que tu as évoqué dans ton exposé sur le fait que ce que tu racontes sur la parcimonie, finalement, touche à des domaines qui ont à voir avec ce qu'on a entendu avant. Enfin, quand on pense à des problèmes comme les problèmes Netflix ou des choses comme ça, dans lesquelles on essaie de faire de la recommandation à partir de très peu de données, où on veut reconstruire. On a aussi des formes de problèmes inverses qui ont quelque chose à voir avec les techniques auxquelles tu peux t'intéresser. Donc c'était une passerelle qui n'était pas attendue du tout dans le fait qu'il y ait l'attribution conjointe de ces deux prix, mais je trouve que c'est intéressant de remarquer que ces passerelles existent et que voilà.
Je vais faire un petit commentaire, à moins qu'il y ait une question urgente, mais effectivement, donc tu as évoqué le problème, les problèmes du titre Netflix, et en fait plus généralement, c'est des problèmes de filtrage collaboratif qui sont abordés dans des contextes où on a un certain nombre d'utilisateurs, on a alors des items de news ou des films, ou il y a des affinités entre ces utilisateurs et les items. La difficulté, c'est que, disons que certains utilisateurs ont vu certains items. Donc, si on connaissait complètement la matrice d'affinité, on saurait très facilement recommander. Enfin, il n'y aurait rien à recommander d'ailleurs. Chaque utilisateur aurait déjà dit ce qu'il aime, mais ce n'est pas le cas. Et le problème, c'est donc de trouver assez efficacement les similarités. Mais ça, c'est aujourd'hui un problème qui est regardé par certains sous l'angle du problème inverse, c'est-à-dire j'ai un objet de grande dimension qui est ma matrice d'affinité, je l'ai observé en certains points, donc c'est une observation partielle, et je veux reconstruire, estimer cette matrice là où elle n'a pas été observée. Alors, il se trouve que dans ce contexte, c'est difficile de mettre un dictionnaire pour la représenter, donc il y a d'autres méthodes pour caractériser le fait que cet objet de grande dimension est en fait de relativement de petites dimensions, typiquement des méthodes basées sur l'hypothèse de rang faible de cette matrice qui permettent implicitement de faire des groupes d'utilisateurs similaires pour de la prédiction. Je ne sais pas, il y aurait des choses à creuser dans cette direction.
Rémi, est-ce que tu pourrais élaborer un petit peu sur la parcimonie qui s'affranchit des dictionnaires?
Alors, quelque part, je viens d'en dire un mot. Aujourd'hui, déjà, il y a des notions de parcimonie un peu généralisées, du type hypothèse de faible rang sur une matrice. Dans ce cas-là, l'objet qu'on cherche à reconstruire, cette matrice, n'est pas caractérisé par un dictionnaire et par ce qu'on appelle l'union des sous-espaces de petites dimensions engendrées par ce dictionnaire, mais plutôt caractérisé par ce qu'on peut considérer comme une espèce de variété qui est en grande dimension, mais à petite dimension intrinsèque. Donc ça, c'est une première gamme d'approches. Et plus prosaïquement, il y a aussi des approches qu'on est en train de regarder aujourd'hui dans le cadre de projets européens, alors où on reste plus proche du dictionnaire, mais en fait, essentiellement, on regarde ce qu'on appelle une parcimonie à l'analyse au lieu d'une parcimonie à la synthèse. Alors, je vais essayer d'expliquer ça de façon concise. Un dictionnaire, c'est un ensemble d'atomes, c'est un ensemble de Lego de base. Et ce qu'on dit, c'est qu'en combinant peu de Lego, on arrive à avoir une bonne approximation de signaux ou d'images. Eh bien, la parcimonie à l'analyse, au lieu d'avoir des Lego, on a des haches ou des ciseaux à bois qui nous permettent de sculpter un objet en disant y a rien par ici, j'enlève tout ça. Donc c'est plutôt sous forme de contraintes, techniquement c'est sous forme d'équations, d'un jeu d'équations qui peut être satisfait par l'objet qu'on fait ressortir sa parcimonie.
Une question sur les relations avec des notions qui viennent de la théorie de l'information, en particulier la complexité de Kolmogorov, qui cherche aussi à se représenter une série temporelle de la manière la plus parcimonieuse possible, ou des notions plus classiques de théorie de l'information, sur quels sont les liens qui existent entre cette vision et ces notions plus anciennes de la représentation efficace de séries temporelles.
Alors, Au niveau de, déjà de la, l'utilisation de cette notion de parcimonie en, en compression, il y a des liens qui ont été très bien établis avec disons de l'information au sens Shannon. L'information au sens de Kolmogorov, je suis moins au, au point sur, ça, sur ceci, mais ceci dit, c'est, des, c'est quelque chose qui a l'air de ressortir dans des discussions, dans les discussions dans le domaine aujourd'hui. Donc, essentiellement, donc, pour la compression, on quantifie le nombre de bits pour représenter des données en fonction que ce part avec, avec Shannon. Et c'est plus ou moins directement lié au nombre de composantes utilisées pour les représenter, avec un compromis débit distorsion. Ce qui complique un tout petit peu le jeu, c'est que en pratique, donc le codage en bits dépend très fortement des index qui doivent être utilisés. Et donc, il y a beaucoup de travail fait, en fait, indépendamment de la parcimonie. La parcimonie, elle fait le, comment dire, l'aspect débit distorsion de base. Mais derrière, il y a des codeurs arithmétiques qui font l'essentiel pour réduire le coût du codage de l'index. Alors, de façon un petit peu surprenante, donc, il y a la, récemment, il y a le... Enfin, surprenant. Il y a l'acquisition compressée, qui est l'idée que on a des objets. Je vais dire un petit mot sur, le, sur l'acquisition compressée. C'est par contraste avec l'acquisition standard. Voilà. Donc l'acquisition de données standard, c'est en fait l'échantillonnage à haute résolution, puis ensuite on exploite la connaissance sur nos données pour la compresser, comme je viens de décrire. L'acquisition compressée ou compressed sensing a été présenté comme une, un moyen de faire bien mieux que l'échantillonnage de Shannon suivi de la compression, en se disant dès le départ, je sais que mon objet était compressible, donc pourquoi ne pas, pas l'exploiter. Donc ça donne lieu à un certain nombre de schémas d'acquisition où on réduit directement la dimension en gardant un nombre de mesures qui doit être de l'ordre de grandeur du nombre de bits qu'on voulait garder. Ceci dit, à ma connaissance, c'est pas quelque chose qui, du point de vue purement théorie de l'information, purement efficacité du codage soit efficace. Ce sont des techniques qui sont plutôt exploitables quand vraiment la mesure physique du, des données est très coûteuse et que de toute façon, on doit se limiter sur le nombre de capteurs à mettre en place. Donc, formellement, en acquisition compressée, il y a des liens qui apparaissent entre le nombre de mesures nécessaires et, quelque part, l'entropie de l'objet à acquérir. Mais en termes opérationnels, ça ne semble pas une, une méthode qui puisse être compétitive avec les méthodes traditionnelles d'acquisition, haute résolution et de compression, dès lors qu'on est capable de déployer celle-ci.
Alors, moi, c'est un peu comme Patrick, c'est-à-dire que je suis agréablement surprise de voir autant de termes communs entre nos deux exposés, et je me dis qu'il y a peut-être effectivement des choses à creuser. Alors, j'avais deux petites questions. La première, c'est que, typiquement, la factorisation matrice, c'est ce qu'on fait en recommandation, mais ça ne donne pas des très jolies choses visuellement, et j'ai l'impression... De loin, que tes projections, en fait, pourraient donner des représentations. Finalement, la manière dont tu traites des données en grande dimension, en petite dimension, tu t'en sors parce que tu les visualises très bien. Tu arrives à bien isoler les... Alors, est-ce que ça pourrait être utilisé pour la visualisation de grands graphes, par exemple?
Alors, déjà, je vais rejoindre ce que tu disais tout à l'heure. Une des raisons pour lesquelles je visualise bien, c'est parce que mes données, là, ne sont pas en si grande dimension. Je visualise des données de dimension 3 en dimension 2.
Oui, d'accord.
Donc, ça facilite un petit peu les choses.
Ok, donc question, qu'est-ce qui se passe quand tu as des grandes dimensions?
Donc, quand il y a des très grandes dimensions, la problématique... Enfin, on n'a pas de solution miracle.
Ah,
donc, il y a effectivement... alors, sur... Il y a des choses qu'on a essayé de faire sur des, avec un collègue, mon collègue de l'EPFL, Pierre Vanderguin, sur des graphes. Donc là, on a défini des transformés en ondelettes sur les graphes. Et donc après, quand il y a des affinités entre utilisateurs ou des propriétés sur des réseaux électriques, en faisant la transformée en ondelettes, en gardant les coefficients significatifs, on réussit à avoir à compresser les données. Mais c'est pas, là encore, je suis en train de répondre à côté de ta question. C'est-à-dire que c'est pas de la visualisation nécessairement de ce qui se passe. Après, je pourrais citer les approches du domaine de l'isomap ou ce genre de choses, je ne pense pas que ça soit qu'on ait une solution miracle pour la visualisation.
C'est bête, t'avais beaucoup parlé de miracle.
Mais il va falloir regarder ça.
et l'autre question, c'est à quel point, parce que quand il s'agit de signaux ou de vidéos, on n'a pas 36 choix dans la représentation. Il y a une représentation, un modèle donné. Et voilà, on fait avec ça. Maintenant, quand il s'agit d'aspects un peu plus sémantiques, comme ceux dont j'ai parlé, on a un tout petit peu plus de liberté. À quel point est-ce que ça peut t'arranger dans ce que tu es en train de faire, quand tu peux représenter, disons, les données initiales d'une manière différente ?
Déjà, ce que j'ai évoqué à la fin, c'était que, pour moi, on arrive assez. Quand on est dans le domaine sémantique, on peut très souvent enrichir, non seulement la liberté, mais on peut enrichir notre représentation en ne se contentant pas de la représentation de base, mais en l'enrichissant avec des features extraits qui peuvent être non linéaires, etc. Donc, il y a, on peut. Sous toute réserve, espérer via ces représentations-là faire ressortir des dépendances entre composantes qui vont permettre de mieux identifier les sous-espaces de petite dimension ou des variétés de petite dimension dans lesquelles les données vivent. Je pense en particulier à des tas de problèmes de classification en haute dimension. Quand on les regarde sur les données brutes, il y a ces exemples de spirales imbriquées, etc., où c'est très difficile de séparer dans le domaine de brut, mais dès qu'on est dans le niveau sémantique, à condition d'enrichir suffisamment les données, on peut faire surgir des sous-espaces qui séparent, par exemple.
Il y a un aspect que tu n'as pas abordé, qui est l'aspect perceptuel. Parce qu'en fait, alors si je prends le côté de l'image que je connais mieux, quand on a une image, si on reprend ton schéma avec la projection d'objets 3D multidimensionnels très complexes, donc on a une image numérique du monde réel tel qu'il est perçu, donc effectivement il y a une très grande différence, mais assez souvent on se fiche de reconstituer le monde réel, ce qu'on veut c'est reconstituer quelque chose qui va leurrer au mieux le système visuel humain, parce que in fine c'est ça qui nous intéresse. Et en fait, je pense qu'il y a une source de parcimonie très importante qui vient que le système visuel humain, lui, il est extrêmement parcimonieux, c'est-à-dire que le nombre de dimensions qu'il a par rapport à ce qu'il observe est extrêmement faible. Et c'est ça qui donne la source de toute la compression, où finalement tu te dis que tu n'as pas besoin de tout ça. Alors, mais il y a une différence entre ce que l'objet de mesure, la caméra, sait faire, et ce que le système visuel sait faire. Mais quelque part, le fait que tu dis l'image, elle est faite pour être vue par quelqu'un in fine, ça te donne toute une source de réduction possible, parce qu'on sait qu'il y a plein de détails auxquels l'œil n'est pas sensible. Et je trouve que cette dimension perceptuelle, tu ne l'as pas du tout mise dans ce que tu as fait. Alors, quelque part, c'est un peu de dire, bah oui, mais quand on fait ça, on ne retrouve pas l'objet complexe. Mais l'objet complexe, généralement, on ne le percevra qu'à partir d'autres expériences ou d'autres instruments ou d'autres choses, où c'est ça qu'on aimerait vraiment reconstruire plutôt que l'objet lui-même, quoi. Parce que quand on, à partir de l'image, on va pas reconstruire tout. C'est pas possible. C'est des infinités d'informations. Et en fait, ce que tu veux, c'est reconstruire une autre vue que celle que tu as, mais qui elle-même a un nombre de dimensions plus réduit, quoi.
Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu mentionnes dans le domaine audiovisuel. C'est-à-dire quand la reconstruction, l'interpolation, l'extrapolation, l'amélioration a pour but d'être présentée visuellement ou auditivement à un utilisateur, la reconstruction d'une vérité de terrain physiquement plausible ou autre n'est pas nécessairement l'objectif. Ceci dit, les techniques que j'ai évoquées plus généralement ont aussi vocation à être utilisées par des astronomes, par des physiciens, qui font de la mesure et dont le but, in fine, n'est pas de présenter quelque chose qui soit joli et acceptable, mais sur lequel il puisse faire quantifier des phénomènes, etc. Pour revenir donc au domaine audiovisuel, oui, c'est effectivement le cas. C'est des choses qu'on a constatées, par exemple, en séparation de sources sonores. On est, quand on a un mélange de sources et qu'on cherche à extraire les sources de base, ben on arrive à une sorte de plafond sur la qualité des sources extraites séparées. Parce qu'il y a un certain nombre d'artefacts qui se produisent qui ne sont pas forcément très agréables à entendre. Mais il est assez rare qu'on ait effectivement besoin des sources séparées. Souvent, il est suffisant de fournir à l'utilisateur un nouveau mélange où on a changé l'intensité relative des sources pour rendre plus intelligible une source souhaitée. Et dans ce contexte-là, il y a des travaux qui ont été menés, notamment avec des start-up dans le cadre de projets, qui montrent que l'utilisation des phénomènes de masquage auditif joue à fond et qu'on peut faire, avec essentiellement les mêmes techniques, des reconstructions où l'utilisateur est complètement bluffé et on n'entend pas les artefacts.
Oui, oui, François a parlé de Kolmogorov tout à l'heure. Moi, j'ai un petit peu travaillé il y a quelque temps dans le domaine des réseaux neuronaux, qui est une espèce de sous-domaine de l'apprentissage automatique, si on peut dire. Et là, donc on cherche à faire des modèles qui sont aussi parcimonieux hein, des données. Il y a un critère qui a été beaucoup utilisé. Ça, je ne sais pas si dans ton cas, c'est pertinent. C'est le critère d'Akaike sur l'information, hein, un critère qui somme en fait le nombre de paramètres, le nombre de degrés de liberté du modèle avec la qualité du modèle. Et on essaie d'optimiser l'ensemble pour faire des choix de modèle. Est-ce que c'est des choses que tu utilises aussi, ça,
c'est vraiment très similaire à la notion de parcimonie, la normale zéro qu'on utilise. Mmh. C'est peu ou prou la même chose, sauf peut-être que, à ma connaissance, le critère d'Akaike, compte un nombre de degrés de liberté du modèle, mais on a peut-être un nombre limité de modèles avec un degré de liberté donné. Dans le cas qui nous intéresse, quelque part, quand on compte le nombre de composantes non nulles, donc, typiquement on fait de l'approximation où on va avoir un terme d'attache aux données et un terme qui pénalise le nombre de composantes non nulles. Mais pour un nombre de composantes non nulles, en fait, il y a beaucoup de modèles possibles parce qu'il y a beaucoup de choix de k composantes non nulles parmi n. Mais à cette nuance près, je pense qu'il y a des très fortes similarités avec critères d'Akaike, avec des critères BIC, etc.
Oui, je voudrais revenir sur le volet sémantique dont tu as parlé un petit peu à la fin et sur le découplage un petit peu. Tu disais que traditionnellement c'est plutôt de l'analogique ou des données numériques, et puis il y a aussi tout le volet sémantique qui pourrait être qui est une perspective intéressante. Et en fait, est-ce que tu as aussi réfléchi à des concepts hybrides où justement on peut avoir des objets en fait qui sont à la fois représentés par des observations numériques, et puis on peut avoir de manière découplée des informations sémantiques sur ces mêmes objets, et puis on peut avoir aussi un petit peu le complément, c'est-à-dire que au sein des objets ou des observations numériques qu'on peut avoir, par exemple une image, il y a des régions sur lesquelles on va pouvoir les distinguer sur par des approches parcimonieuses, par exemple sur des dictionnaires, et d'autres régions où finalement ce qui va différencier ces patterns qui vont nous aider à faire les dictionnaires, ça va être peut-être des informations sémantiques. Et donc là, à ce moment-là, on va avoir un couplage d'informations numériques et sémantiques complet. Et est-ce que ces deux aspects-là, en fait, c'est des choses qui sont prises en compte aujourd'hui dans ces approches parcimonieuse?
À ma connaissance, ce ne sont pas des choses qui sont directement traitées aujourd'hui. C'est plutôt des défis qui s'ouvrent de vraiment réussir à faire converger ces deux bouts de la chaîne. Ceci dit, il y a quand même déjà un certain nombre de pistes assez concrètes pour l'aborder. Notamment, je pense en particulier à la situation dans laquelle on veut faire de l'apprentissage, donc pour construire un classifieur, disons. On a des labels, on a de l'information sémantique sur des données. Ces données sont déjà de grande dimension. Donc si on travaille directement sur les données de grande dimension et qu'on en a une grosse collection, l'apprentissage est extrêmement coûteux. Dans ces conditions, le fait de savoir que les données étaient parcimonieuses dans un domaine bien choisi ça doit permettre de réduire de changer la façon d'apprendre tout simplement par exemple en réduisant volontairement la dimension de chacun des items de la base sur laquelle on fait l'apprentissage. Et moi, ce que je pressens également, c'est que à cause de la parcimonie cherchée du classifieur, il doit être aussi possible non seulement donc de réduire la dimension de chacun des items de la base, mais aussi de faire des espèces d'agrégats d'éléments des bases d'apprentissage qui permettent au final de se formuler des problèmes d'optimisation pour l'apprentissage qui soient beaucoup plus compacts.
Bien, merci encore Rémi, on est obligé de s'arrêter là.